Galaxy 98.5.
Sur Radio Galaxy, on va parler de la prochaine conférence et dernière conférence de la saison organisée par la Pupe en Vol qui se tiendra le mercredi 25 juin à Montesquieu-Volvestre. Et alors là, tenez-vous bien, on va parler de l'ordinateur quantique. Bonjour Dominique Audero.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur retraité et un grand curieux de science, on pourrait dire grand passionné aussi. Alors, le terme de la physique quantique peut nous paraître totalement flou. On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Dans un premier temps, qu'est-ce que la physique quantique, Dominique ?
Alors, c'est une vieille histoire déjà. Mmh. Elle remonte à 125 ans, puisque les premières idées ont démarré avec Albert Einstein et Max Planck entre 1900 et 1905. Puis ensuite, en 1913, avec Niels Bohr. Et il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on axiomatise, qu'on rende rigoureux tous les principes de la mécanique ou de la physique quantique. Donc c'est dans les années 1920 à 1935 que les plus grandes évolutions ont été faites. Tout ça a été extrêmement nouveau pour les physiciens traditionnels de l'époque qui connaissaient que le monde continue. Ça a été très difficile à admettre pour beaucoup que les choses soient discontinues. Mmh. En fait, nous sommes dans un monde quantique où les choses sont quantifiées, c'est-à-dire valeur discrète, et c'est dans un monde tout petit. Si vous vous souvenez de Gulliver et des Lilliputiens, c'est un peu ça. Nous sommes des Gulliver et les atomes, les molécules, les particules d'une façon générale qui sont là, ce sont des Lilliputiens. Voilà.
Alors c'est vrai.
Alors
que...
ces Lilliputiens, ils n'ont pas les mêmes règles que nous, les Gullivériens. Et alors il a fallu les trouver, ces règles. Et c'est justement toutes ces règles qui ont été trouvées entre 1920 et 1935.
Parce que c'est vrai que d'un côté, c'est une révolution, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, puisque ça existe depuis les années 1900.
C'est ça. Mais ça a évolué, la compréhension s'est faite petit à petit. Pour simplifier, il y a trois grands principes qui sont apparus. C'est d'abord la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire qu'une particule, elle est soit une onde, soit une particule. C'est-à-dire un objet qu'on peut voir, ou une onde qu'on ne voit pas, mais qui a des effets que l'on sait observer.
Ok.
Donc ce phénomène d'onde-particule, c'est important pour la suite. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est la superposition, c'est-à-dire qu'il y a l'expérience célèbre de Schrödinger qui s'appelle le paradoxe du chat, le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant. C'est-à-dire qu'il est à la fois mort et vivant, c'est-à-dire qu'on superpose son état de vivant et son état de mort. Alors ça, c'est un peu exagéré parce qu'on n'a jamais vu dans la réalité des objets aussi gros qu'un chat être à la fois mort et vivant. Mais
c'est vrai.
Pour les particules, c'est tout à fait possible. La troisième chose, c'est l'intrication. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à faire naître deux particules en même temps, elles sont inséparables. Vous pouvez les éloigner l'une de l'autre aussi loin que vous voulez. Elles se comporteront comme si elles étaient une seule particule. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, deux photons intriqués, si l'un a une polarisation verticale, l'autre a aussi une polarisation verticale. Si on change la polarisation de l'un pour mettre une polarisation horizontale, l'autre devient horizontal aussi, instantanément. Ce qui perturbe beaucoup les gens, en particulier Einstein, mais je reviendrai là-dessus plus tard, c'est que la physique quantique n'est pas locale.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, justement, le fait que vous ayez une particule qui a une certaine sens, et si vous lui changez son orientation, la deuxième, qui peut être à un kilomètre ou même plus loin, elle changera automatiquement aussi de sens. Mais comment se fait-ce que l'on puisse transférer cette information à une vitesse instantanée alors que tout ce qu'on sait, la plus importante possible, c'est la vitesse de la lumière.
En ce qui concerne l'informatique quantique, c'est le thème de votre conférence. Quelle est la différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique ?
Justement, l'ordinateur classique, il utilise des zéros, des bits 0 et des bits 1 pour faire ses calculs. Mmh. Alors que l'ordinateur quantique, il utilise des superpositions de bits, qu'on appelle des qubits, qui sont à la fois des valeurs 0 et la valeur 1. C'est-à-dire le chat mort et vivant en même temps. Donc le 0 et le 1.
Et ce qui permet de faire des calculs beaucoup plus rapides.
Alors, la première idée, c'est qu'effectivement, si on a grand N qubits, on a 2 puissance N possibilités de calcul, ce qui est énorme. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Il y a l'intrication derrière qui peut aussi permettre de faire des calculs beaucoup plus évolués. Et il y a aussi le fait qu'on a la possibilité d'avoir une onde et une particule, la dualité onde-corpuscule. Ce qui fait que si vous avez à faire un calcul, vous pouvez très bien imaginer que les qubits s'arrangent entre eux pour faire des interférences positives et négatives et qu'ils, d'une façon naturelle, trouvent une solution complexe mais physique.
Et alors, depuis maintenant quelques années, il y a eu des annonces triomphales qui se sont succédées de la part d'IBM, de Google ou encore de Microsoft. En résumé, ils auraient atteint la suprématie quantique. Là, c'est encore un niveau au-dessus, Dominique.
Oui. Alors ça, c'est purement commercial, c'est marketing, puisque il y a le nombre d'opérations, et c'est en 2 puissance n, dès que n est assez grand, on a un nombre d'opérations énorme. Mais il faut se rendre compte que, et on y reviendra par la suite, ces qubits, ce sont des qubits qui ont été fabriqués par l'homme et qui sont complètement imparfaits. Mmh. Ils ont une durée de vie limitée, ils ont un taux d'erreur énorme, ce qui fait qu'on ne peut rien en faire. Alors même si on fabrique 50 qubits, on peut simplement constater qu'on en a fabriqué 50, mais on ne peut rien en faire. Donc cette suprématie quantique, ça ne sert pas à grand-chose.
C'est pour faire joli, en fait.
C'est ça. C'est pour se faire mousser.
Oui. En fait, c'est une sorte de compétition entre les nations et ces entreprises, IBM, Google et Microsoft.
Ah, bien sûr, parce que le premier qui réussira à sortir un vrai ordinateur quantique, il aura gagné le jackpot.
Et oui. Et pour démontrer finalement que la suprématie quantique n'est pas une illusion et que leurs machines peuvent surpasser les super ordinateurs. Il y a de l'enjeu derrière. Hein.
Oui, et puis de toute façon, les ordinateurs, les super ordinateurs classiques continueront à exister parce que les ordinateurs quantiques ne peuvent résoudre que certains problèmes de façon optimale. Et il faudra toujours les coupler avec un ordinateur classique. Et je voudrais quand même insister un peu sur ce que l'intérêt des ordinateurs quantiques par rapport aux ordinateurs classiques. C'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont très très mal traités par les ordinateurs classiques. Donc la structure même de médicaments ou de ces matériaux, ce sont des molécules. Et on peut inventer de nouvelles molécules, on peut en trouver grâce à la physique quantique. Un autre problème très intéressant qui peut être traité par l'ordinateur quantique, c'est logistique, d'une façon générale. Par exemple, un représentant de commerce qui doit circuler sur plusieurs villes pour représenter ses produits est obligé d'optimiser ses trajets, ne serait-ce que pour économiser de l'essence, etc. Donc, très rapidement, dès que vous avez un nombre d'étapes trop important, le problème devient pratiquement impossible à résoudre avec un ordinateur classique. Ce que l'ordinateur quantique fait, lui, très bien, lorsqu'il sera au point.
Eh oui, il faut attendre encore quelques années.
Ouais.
Vous qui êtes ingénieur retraité, c'est un avenir très prometteur, selon vous ?
Les avis sont très partagés parce qu'il y a énormément d'entreprises qui travaillent dessus. Les grosses entreprises comme IBM, comme Intel, comme Microsoft, comme Google, comme Amazon aussi. Ça, c'est aux États-Unis, mais il y en a d'autres aussi ailleurs. Ils mettent énormément d'argent dans la recherche de ces différents ordinateurs quantiques. Maintenant, les résultats sont assez limités. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de possibilités pour fabriquer ces qubits. soit à partir d'atomes, soit à partir d'ions, soit à partir d'électrons, soit à partir de photons. On a comme ça 6 ou 7 technologies différentes qui sont étudiées en parallèle, mais aucune de ces technologies ne l'emporte sur une autre. Elles ont leurs propres points forts qui sont différents les unes des autres, mais on n'arrive pas à avoir une technologie avec tous les points forts. Comme par exemple le problème de la décohérence, les qubits ont une durée de vie extrêmement limitée dans le temps. Il faut qu'ils soient dans un environnement extrêmement stable, à très basse température, dans un vide presque absolu. Et dès qu'il y a une perturbation, ne serait-ce qu'un rayon cosmique qui traverse la pièce au moment où on fait le calcul, ça réduit complètement le qubit en un 0 ou 1. C'est-à-dire qu'il perd son côté quantique. Donc vous voyez que c'est très difficile.
Et puis enfin, pour terminer, Dominique, on peut parler de ces entreprises françaises qui tiennent une bonne position.
Oui, la France a la chance d'avoir déjà, au niveau de l'éducation, par ses écoles d'ingénieurs et par ses universités, un très bon panel de chercheurs. Il y a une volonté de l'État actuel pour financer des entreprises, des start-up qui font un travail remarquable.
Pour en savoir plus sur l'ordinateur quantique et ses technologies, il faut se rendre à votre conférence du mercredi 25 juin. Rendez-vous à 20h à la salle polyvalente de Montesquieu-Volvestre. C'est organisé par la Pup en vol avec une entrée libre et gratuite et c'est présenté par Dominique Audero, ingénieur retraité et un grand passionné et curieux de science. Merci à vous.
Merci.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.